Esprit Saint, Père des pauvres, viens en nous, viens dans cette parole que je vais prononcer au nom du Christ, que cette parole porte du fruit, qu'elle soit habitée de la puissance, de la douceur de Dieu. Esprit Saint, c'est toi qui fais tout, par toi nous recevons tous les dons de Dieu. Tu es la troisième personne de la Trinité, tu es l'amour du Père et du Fils. Esprit Saint, nous croyons en toi, nous savons que tu peux tout, nous avons confiance en toi. De l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 2, à partir du verset 1. Comme Jésus était entré de nouveau à Capharnaüm, après quelque temps, on apprit qu'il était à la maison. Et beaucoup se rassemblèrent, de sorte qu'il n'y avait plus de place même devant la porte, et il leur annonçait la parole. On vient lui apporter un paralytique soulevé par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent la terrasse au-dessus de l'endroit où ils se trouvaient, et ayant creusé un trou, ils font descendre le grabat où gisait le paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont remis. » Or il y avait là dans l'assistance quelques scribes qui pensaient dans leur cœur, « Comment celui-là part-il ainsi? Il blasphème. Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul ?» Et aussitôt, percevant par son esprit qu'ils pensaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, « Pourquoi de telles pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile de dire aux paralytiques, « Tes péchés sont remis » ou de dire, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez toi. Le paralytique se leva et aussitôt prenant son grabat, il sortit devant tout le monde, de sorte que tous étaient stupéfaits et glorifiaient Dieu en disant, jamais nous n'avons rien vu de pareil. Alors, comme nous l'avons entendu, cette scène se passe à Capharnaüm, en Galilée, au bord du lac de Galilée. Et Jésus est dans la maison, nous dit le texte, ça veut dire la maison de Pierre et d'André. Si vous allez en Israël, il y a un lieu qui est désigné comme la maison de Pierre. En tout cas, Pierre et André avaient une maison là-bas, habitaient là-bas, et Jésus est chez eux. Mais la maison, au sens spirituel, la maison de Pierre, au sens spirituel, symbolique, c'est l'Église. L'Église, c'est la maison de Pierre, puisque Pierre est la pierre sur laquelle Jésus a construit l'Église. Donc la maison de Pierre, c'est l'Église. Et ce soir, vous êtes assez nombreux, vous êtes un peu comme dans cette maison de Pierre, où il n'y a pas assez de place, parce qu'on n'a pas assez de place assise pour vous, pour mettre tout le monde. Donc on met les gens comme on peut. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Dès qu'il y a des guérisons, eh bien, les foules accourent pour obtenir aussi des grâces, et du temps de Jésus, ça se vérifiait très précisément. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il leur annonce la parole. Oui, mais on se dit, mais c'est quoi cette parole? Eh bien, la parole, c'est tout l'Évangile, tout ce que nous entendons dans l'Évangile, mais la parole, c'est aussi ce que Jésus va faire devant tout le monde, parce que ça, les œuvres de Dieu, c'est aussi une parole de Dieu. Il leur annonce la parole. Pourquoi? Pour que la parole transforme notre cœur, qu'elle nous arrache aux ténèbres, qu'elle nous fasse entrer dans la lumière de l'amour, de la bonté, de la miséricorde, dans la foi en Dieu tout-puissant et miséricordieux. Il leur annonçait la parole. Puis à ce moment-là, vient quelque chose qui vient troubler, se passe quelque chose qui vient troubler apparemment l'enseignement de Jésus, mais Jésus laisse faire. Voilà que ceux qui sont dans cette pièce probablement voient que des gens sont en train de gratter le toit. Il y en a qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces dingues qui sont en train de passer par le toit? Mais Jésus laisse faire. Il faut dire qu'un toit à l'époque, ça se refait assez facilement. Ce n'est pas des heures de travail. Enfin bref, ils passent par le toit parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans la pièce. Elle est bloquée par la foule. Et donc ces quatre hommes ont décidé de passer par le toit pour arriver à atteindre Jésus, pour arriver devant lui. Et descendre ce paralytique au milieu de la foule. Alors Jésus aurait pu être très énervé en disant « Mais qu'est-ce que vous foutez ? Respectez un petit peu les choses. » Mais bizarrement, il est très bienveillant et il laisse faire. Et même il est admiratif. Il est admiratif parce qu'il trouve que ces gens font preuve d'ingéniosité, qui est aussi le signe de leur foi, de leur grande foi. Et donc Jésus ne regarde pas simplement les apparences, peut-être que ce n'est pas complètement génial de creuser un toit, surtout quand ce n'est pas le toit de sa propre maison, mais il regarde le cœur qu'il y a dans ces personnes qui portent ce paralytique, la compassion qu'ils ont pour cet homme qui est paralysé. Ils l'ont quand même porté jusque-là, peut-être qu'ils viennent d'un autre village. Ils l'ont porté jusque-là, et là ils veulent absolument que cet homme rencontre Jésus, donc ils prennent les moyens pour cela, ils creusent le toit. Jésus, voyant leur foi, est-il écrit, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont remis. » Donc ce paralytique va être guéri, parce que lui a la foi, on ne sait rien, peut-être, mais surtout grâce à la foi des quatre personnes qui l'ont amené devant Jésus. Voilà. Donc ce qu'il nous montre, c'est important de prier les uns pour les autres, parce qu'on est aussi guéri grâce à la foi des autres. Peut-être que nous, on n'a pas assez de foi pour guérir, mais s'ils sont plusieurs, et plusieurs personnes à prier pour nous, ça va faire une foi qui est plus forte. Comme quand on met plusieurs flammes ensemble, ben la flamme qui réunit plusieurs flammes devient plus forte. Mais simplement, Jésus ne guérit pas ce paralytique. Il lui dit « tes péchés sont remis ». Peut-être que les quatre hommes ont été déçus, parce qu'eux, ils étaient venus pour que Jésus guérisse cet homme. Et Jésus lui dit « tes péchés sont remis ». Alors est-ce que Jésus se moque de ce paralytique? Il souffre, il est paralysé. Le problème essentiel de sa vie, c'est quelque part sa paralysie. Eh bien non, Jésus voit quelque chose de plus important encore que sa paralysie, c'est son cœur. Son cœur qui est lié par le péché. Et donc Jésus lui pardonne, parce qu'en lui pardonnant, il lui donne un cadeau bien plus grand que la guérison, il lui offre la vie éternelle. C'est-à-dire quand Dieu nous pardonne nos péchés, eh bien on est libéré de cette culpabilité, et à ce moment-là, on peut obtenir la vie éternelle, c'est-à-dire le bonheur éternel. Donc, si on y réfléchit, c'est mathématique. Quelqu'un qui est guéri va être guéri 20, 30, 40 ans, enfin jusqu'à sa mort, si tout se passe bien. Quelqu'un qui a la vie éternelle, c'est pour la vie éternelle. Donc c'est incomparable entre une guérison terrestre et la vie éternelle. Si on vous donne le choix, ben n'hésitez pas, choisissez la vie éternelle. Parce que d'un côté, c'est 40 ans d'ennui en moins, mais de l'autre côté, c'est l'infinité de bonheur. Donc c'est pour ça qu'il est important de demander au Seigneur de nous pardonner nos péchés. Si vous êtes catholique, vous pouvez vous confesser, faites-le, c'est simple, c'est pas compliqué d'aller une confession. Parfois il y a des péchés qui sont durs à dire, mais une fois qu'on les a dit, c'est bon, c'est terminé. Et si vous en êtes libéré, vous n'aurez plus jamais à les confesser. Et en plus, le prêtre qui écoute votre péché n'a pas le droit de vous juger. S'il vous juge, il se juge lui-même, il se condamne lui-même. Donc dites-vous qu'un prêtre, quand il écoute vos péchés en confession, n'a pas le droit de vous juger. Sinon, il se condamne lui-même, il se juge lui-même. D'accord? Donc n'hésitez pas, si vous n'avez jamais fait cette démarche, ou si vous la faites rarement, à obtenir cette grâce de pardon des péchés tellement forte. En confession, si vous êtes catholique, si vous êtes protestant, ben vous priez avec un psaume. Si vous ne pouvez pas vous confesser, vous priez avec le psaume 50. Voilà, suppliez Dieu de nous pardonner nos péchés. C'est la grâce la plus importante que je vous souhaite. Mais devant ce que Jésus fait, il y a des scribes, c'est-à-dire des gens qui sont des spécialistes de la loi, de l'écriture sainte, et ils sont choqués par cette parole de Jésus qui dit « tes péchés sont pardonnés ». Et ils disent à juste titre, ils ont raison, « qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Ben c'est vrai, personne ne peut nous pardonner nos péchés. Quelqu'un à qui on a fait du mal, il peut nous pardonner le mal qu'on lui a fait. Mais nos péchés à nous, personne ne peut nous les enlever si ce n'est Dieu qui nous a créés et qui est capable de nous pardonner nos péchés parce que Jésus est mort pour nous, pour nos péchés. Donc ils ont raison, Dieu seul peut pardonner les péchés, Dieu peut le faire. Personne d'autre ne peut nous délier. Et donc la question, ils se disent, mais cet homme il se prend pour Dieu en pardonnant les péchés, il se prend pour Dieu. Là où ils ont tort, c'est qu'il ne sait pas qu'il se prend pour Dieu, c'est qu'il est Dieu. Il est Dieu fait homme, il est le Fils du Père qui s'est incarné. Il a pris, lui qui est une personne divine, a pris une nature humaine. L'Église a mis longtemps à réfléchir cela, plusieurs siècles à pouvoir le dire précisément. Mais n'empêche que c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est incarné et il est réellement Dieu. Et donc ce que les scribes perçoivent, c'est que Jésus, en pardonnant les péchés, affirme qu'il est Dieu. Il ne dit jamais « je suis Dieu », mais il pose des actes divins et celui-là en est un. Alors Jésus lit leurs pensées Et donc, il leur dit qu'elle est plus facile de pardonner les péchés ou de guérir un paralytique. Et il leur montre, en guérissant ce paralytique, qu'il est Dieu. Dieu seul peut faire cela. Dieu seul a une parole efficace. C'est-à-dire, quand Dieu dit quelque chose, ça se réalise parce qu'il est Dieu. Quand Dieu dit à quelqu'un qui est paralysé, lève-toi, il peut se lever parce que celui qui a parlé, c'est Dieu et que Dieu est tout puissant. Donc, Jésus leur montre qu'il a un attribut divin, qu'il est tout puissant, puisqu'il est capable de prononcer une parole qui guérit ce paralytique. Et de fait, cet homme se lève et tout le monde glorifie Dieu à ce moment-là. Alors, je ne suis pas sûr que Jésus ait convaincu les scribes, parce que quand on a une idée en tête, on ne va pas toujours en sortir. Et comme on voit comment ça s'est terminé, on voit bien que les scribes, ils n'ont pas voulu accepter que Jésus est Dieu, qu'il est le Messie, non seulement qu'il est le Messie, mais qu'il est Dieu. Ce qui prouve que même on peut voir des miracles devant soi, parce qu'ils ont vu cet homme se lever, et ne pas se convertir. C'est pas parce qu'on voit un miracle, ou qu'on entend parler d'un miracle, qu'on va se convertir. Ça ne suffit pas. On pourrait croire que ça va suffire, ça va convaincre tout le monde. Eh ben non, ça ne suffit pas. Ça ne convaincra que celui qui a un cœur ouvert, qui accepte de mettre sa foi en Jésus, qui accepte que Dieu agisse et qu'il ne comprenne pas. Et ça, tout le monde n'en est pas forcément capable, parce que ça, c'est le mystère de chacun. Et après notre Seigneur, eh bien, le Seigneur a demandé aux apôtres de faire la même chose que lui, de guérir, et il leur a donné pouvoir de remettre les péchés. Les apôtres ne sont pas Dieu, évidemment, mais ils ont reçu ce pouvoir du Seigneur de remettre les péchés, comme c'est marqué à la fin de l'évangile de Jean. Il souffle sur eux, il dit, ceux qui vous remettraient les péchés sont remis, ceux qui vous les retiendraient seront retenus. Donc les apôtres, à leur suite les évêques donnent ce pouvoir au prêtre, le prêtre dispose d'un pouvoir incroyable dans sa main, comme disait le curé d'Ars, le pouvoir du prêtre est incroyable, même si c'est un pauvre type, il peut remettre les péchés et il peut rendre Jésus présent sur l'autel, quelles que soient ses qualités personnelles qui peuvent être très limitées. Et comme il est prêtre, il a ce pouvoir qu'il a reçu des évêques et par la transmission apostolique des apôtres et du Christ lui-même. Voilà. Donc c'est pour ça que le pape peut dire que l'Église est un hôpital de campagne, le pape François, parce que dans l'Église, le Seigneur opère des guérisons. Maintenant, il ne guérit pas tout le monde, parce que les guérisons sont des signes du royaume. S'il suffisait d'entrer dans l'Église et puis je suis guéri, je peux vous dire que là, tout le monde, 99% des Français, seraient dans les Églises. Évidemment, parce que ce serait une démarche un petit peu utilitariste. Je vais dans l'église, je suis guéri, c'est cool. Mais est-ce que ça serait vraiment de l'amour? Je ne suis pas sûr. Donc le Seigneur guérit des personnes, pas selon leur mérite, selon sa volonté personnelle. Dans cette assemblée, il en guérit beaucoup par grâce. Il y a des centaines de gens qui ont été guéris, mais il ne guérit pas tout le monde quand même. Alors, maintenant je vais vous donner quelques témoignages que je me contente de lire. Ce sont des gens qui sont venus nous donner leur témoignage. Et vous allez voir qu'il y a de belles choses. Je commence par Hélène, qui avait des acouphènes depuis très longtemps, qui a été guérie de ses acouphènes à la prière des malades le 14 décembre 2017. Elle n'en avait plus en sortant. Ça, c'est un témoignage qui m'a beaucoup touché. C'est une enfant qui s'appelle Margot. Elle est venue avec sa maman à la prière des malades. Margot, elle a une maladie assez grave. Elle est venue avec sa maman, une amie de sa maman, à la prière des malades. Pendant la prière, elle a vu une dame qui est arrivée en boitant. Donc cette enfant qui est Margot, elle n'a pas prié pour elle-même, elle a prié pour cette dame. Et elle et sa maman ont remarqué que cette dame, quand elle est repartie de sa place, elle ne boitait plus. Donc la petite Margot, elle n'a pas pensé à elle-même, elle a pensé à quelqu'un d'à côté. Et elle a obtenu que cette dame soit guérie du fait qu'elle boitait. Guillaume était guéri d'aérophagie, il avait de l'aérophagie depuis longtemps lui aussi, suite à une parole de connaissance qui a été donnée quand le Saint-Sacrement est passé devant lui, et depuis il n'en a plus, ce qui lui donne aussi l'espérance de revoir un jour son fils qui ne voit plus, qui est autiste. Du coup, il espère pouvoir le revoir, que le Seigneur l'exaucera aussi sur cette prière. Louis, en janvier 2018, est venu à la prière des malades, souffrait beaucoup du bas de son dos, souffrance structurelle, Quand il est sorti, il ne souffrait plus, il a été immédiatement guéri suite à une parole de connaissance. Alors je rappelle que les paroles de connaissance sont des paroles que le Seigneur nous inspire à quelques personnes qui ont cette grâce dans le petit groupe qui anime cette prière. Ce ne sont pas nous qui lisons, qui utilisons vos papiers qui sont dans la corbeille qui y resteront, par lesquels vous intercédez auprès du Seigneur. Donc les paroles de connaissance, nous les recevons pendant la prière au fur et à mesure, au début de la prière, nous ne savons pas les paroles que nous allons recevoir. Lydie, elle remercie le Seigneur parce qu'elle souffrait beaucoup à sa tête. Elle nous a dit comme si elle était brûlée, comme si sa tête était brûlée. Donc, suite à une parole de connaissance, les souffrances ont commencé à s'apaiser et continuent de s'apaiser de jour en jour. Et elle dit que les gens qui la connaissent avaient remarqué déjà le lendemain de la prière des malades que son visage avait changé. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup, il a le visage très contracté. Par ailleurs, elle a d'autres problèmes qui ne sont pas guéris. Dieu ne l'a pas guéri de tout. Elle a encore des muscles qui se contractent tout seul, en particulier au niveau de son cou. Gwenaëlle, qui nous a témoigné par courrier ou par mail, je ne sais plus, il n'était pas à la prière des malades, mais il a prié en union avec la prière des malades à l'hôpital, là où il est. Il a prié pour sa voisine dont le dos est foutu. Mais à ce moment-là, sa voisine, qui avait un gros problème, qui était extrêmement malade, était victime d'une grave infection suite à une opération qu'on lui avait faite, et les médecins étaient extrêmement inquiets. Donc au moment de la prière des malades, il a prié pour sa voisine, et le lendemain, l'affection avait disparu beaucoup plus rapidement que ce que les médecins avaient anticipé, qui la veille encore était un peu affolée. Marie-Thérèse avait des vertiges suite à un choc brutal. Le médecin a diagnostiqué un problème de cristaux au niveau de l'oreille interne, mais ce qu'il a fait pour Marie-Thérèse, le traitement qu'il lui a donné, n'a pas permis de réduire les vertiges. Marie-Thérèse est venue à la prière des malades et une parole de connaissance a annoncé qu'une personne serait guérie de vertiges le jour de Noël. Et de fait, le jour de Noël, Marie-Thérèse a constaté que ses vertiges avaient disparu. Voilà, Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ces témoignages que nous avons reçus, qui nous permettent d'attester que tu continues tes œuvres magnifiques dans cette prière. Maintenant, nous allons exposer le Saint-Sacrement. Jésus-même présent parmi nous.